Bienvenue à tous au 89e épisode de Hypercroissance. Comme je le fais quelques fois par année, je vous partage aujourd'hui une nouvelle chronique d'affaires sur un livre que j'ai trouvé, ma foi, fantastique, intitulé Amazon Unbound. Je vous souhaite un bon épisode et j'espère que ma critique du livre vous poussera à acheter le bouquin. Bonne écoute! Amazon, la création d'un empire. Aujourd'hui, pour cette chronique d'affaires, j'ai envie de partager avec vous le livre qui m'a le plus marqué dans les 6 derniers mois. Après avoir grandement apprécié The Everything Store, le premier ouvrage de Brad Stone, qui expliquait la naissance d'Amazon de 1994 à 2013, l'auteur est revenu à la charge en début d'année en décrivant cette fois-ci la croissance totalement phénoménale que le géant du commerce en ligne a vécu lors des 8 dernières années. Pour bien vous situer aujourd'hui de la différence de croissance que l'organisation a vécue, on n'a qu'à s'attarder à des métriques assez éloquentes. Amazon en 2013, c'est une capitalisation boursière à 189 milliards de dollars contre 1 trilliard 840 milliards de dollars en 2021. Également en 2013, ce sont des revenus à 74 milliards de dollars contre 386 milliards de dollars de revenus pour l'année complète de 2020. Ce sont également des profits nets de 274 millions de dollars en 2013 contre 21 milliards de dollars en 2020. Un nombre d'employés qui se chiffre à 117 000 en 2013 contre 1,3 million d'employés au total en 2021. Et la valeur de la fortune de Jeff Bezos, le célèbre fondateur de l'entreprise, est passée de 27,2 milliards de dollars en 2013 à 209 milliards de dollars en 2021. Si on analyse bien, on peut remarquer que la fortune actuelle de Jeff Bezos est plus importante que la valeur de l'entreprise en 2013. Une raison de plus pour évoquer l'évolution totale de l'entreprise au cours des dernières années. Maintenant, ce qui est totalement fascinant avec cette entreprise est le fait que toutes les initiatives qui sont devenues très profitables dans les dernières années sont des verticales de services qui ont été lancées il y a très longtemps maintenant. Peu de gens le savent, mais le plus gros vecteur de profitabilité pour Amazon, qui est AWS pour Amazon Web Services, a été lancé en 2006. Amazon Prime, le célèbre service de livraison instantanée qui compte plus de 150 millions de membres, a lui été mis de l'avant en 2005. Bref, on pourrait penser que toutes ces idées incroyables ont été des succès rapides, mais la réalité est tout autre. Amazon a semé énormément au cours de 2000 à 2013 et a pu récolter beaucoup de ses paris au cours des 8 dernières années. Maintenant, laissez-moi vous présenter les parties que j'ai trouvées les plus fascinantes dans le livre. HQ2. En 2017, en pleine expansion rapide, Amazon devait commencer à regarder ses options en ce qui concerne les lieux de travaux de l'entreprise. Non content des conditions mises de l'avant par la ville de Seattle concernant les taxes d'affaires, Amazon, qui détient à ce moment 13,8 millions de pieds carrés en superficie d'espace de travail dans la ville, décide de se tourner vers de nouvelles avenues pour l'installation d'un nouveau siège social. C'est alors qu'en septembre 2017 s'amorce un concours de popularité à travers toutes les grandes villes du Canada et des États-Unis. En effet, le géant technologique promet d'amener 50 000 emplois payants à la ville choisie pour accueillir le nouveau siège social de l'organisation. Par contre, pour se mériter autant d'emplois payants à l'intérieur de sa ville, il va falloir se montrer généreux. Voici d'ailleurs des concessions que certaines villes étaient prêtes à offrir à l'entreprise. L'État de Montgomery au Maryland a offert 6,5 milliards de dollars de dons de taxes pour que l'entreprise vienne s'installer. La ville de Boston a même offert plus de 75 millions de dollars en formation en technologie pour des citoyens qui deviendraient ultimement des employés de Amazon, tout en offrant du même coup 13 millions de dollars en prêt pour ces mêmes collaborateurs qui aimeraient acheter une maison dans la ville du Massachusetts. Plus décontracté, le maire de Kansas City a commandé lui-même 1000 produits de Amazon et a donné une critique positive sur le site pour chacun de ces 1000 achats. Au final, plus de 200 villes se sont prêtées à l'exercice et seulement 2 ont été choisies à la fin, soit la ville de Long Island dans le quartier Queens de New York, ainsi que la ville de Arlington en Virginie. Malheureusement pour Amazon, l'annonce des villes gagnantes a rapidement tourné au cauchemar. Très peu fan depuis ses tout débuts d'avoir des syndicats à l'intérieur de son organisation, Amazon s'est rapidement frotté à plusieurs critiques de l'État de New York qui remettant en doute le 1,25 milliard de dollars de dons de taxes que l'État allait lui donner. Dos au mur, les représentants de l'entreprise, maintenant évalués à près de 2 trilliards de dollars, ont dû s'expliquer devant un comité qui leur a posé une question bien précise. Seriez-vous prêt à intégrer des syndicats à votre entreprise d'ici quelques années? Très ferme en ne dérogeant pas de leurs principes, la réponse de l'entreprise a été d'un non catégorique et par la suite, les critiques n'ont fait que pleuvoir par des représentants gouvernementaux très en vue à New York comme Alexandria Ocasio-Cortez ou encore le maire Bill de Blasio. Important de comprendre ici que New York est vue comme une ville pro-syndicat depuis des lustres maintenant. C'est donc normal que des demandes du genre allaient un jour arriver. Pas contente du traitement reçu, Amazon décide 4 mois plus tard d'abandonner son expansion à Long Island et de seulement concentrer ses efforts d'expansion en Virginie, un peu à New York dans l'environnement de Hudson Yards et également dans d'autres villes en Amérique du Nord. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a même mentionné que la décision de Amazon de se retirer est la plus grande tragédie qu'il a vécue comme gouverneur de l'État. Important de comprendre que ces mots ont été dits avant la crise de la COVID-19. L'expansion de Amazon en Inde. Dans le chapitre 3 du livre, on parle de l'expansion d'Amazon en Inde et l'histoire est assez fascinante. Pour bien comprendre le tout, on doit analyser de où l'entreprise provient en termes de vision du monde des affaires. Depuis le tout début, l'organisation de Seattle a toujours eu une vision de conquéreur et de croissance rapide. Très souvent, on a pu voir Amazon accepter de perdre de l'argent pendant plusieurs années afin que, éventuellement, elle possède assez de parts de marché pour pouvoir créer de la rentabilité. Par contre, quand Amazon s'est établi en Chine, ils étaient face à un concurrent beaucoup plus mature en vente en ligne seulement JD. Concentré quasiment uniquement en Chine, ce joueur important possédait déjà un plus grand bassin de clientèle que Amazon à l'époque et les exécutifs de l'entreprise américaine ont même décidé, à terme, de viser la profitabilité au détriment de la prise de marché. Comme c'était à prévoir, cette approche a tué à petit feu la présence de Amazon en Chine pour finalement fermer définitivement en 2019. En 2013, quelques employés de longue date viennent voir Jeff Bezos afin de lui expliquer un plan d'expansion en Inde. L'homme le plus riche du monde n'a pas la mémoire courte et leur dit rapidement « Avec ce plan, vous allez échouer à coup sûr. Votre plan manque d'ambition. » C'est à partir de ce moment-là que l'expansion du géant américain dans le deuxième pays le plus peuplé de la Terre prend place et deviendra toute une histoire de prise de marché entre Amazon, bien sûr, et Flipkart. Cette dernière, bien implantée en 2013 lorsque Amazon décide d'intégrer le pays, voit son avance dans la prise de marché fondre à vue d'œil au courant des années qui suivront. La guerre de prix jumelée au fait que Amazon décide cette fois-ci de perdre plusieurs milliards de dollars pour bien s'établir dans le pays amène le joueur local à commencer à se poser de sérieuses questions sur son avenir. Est-ce qu'il continue à se frotter à une bataille d'expansion ou il devient davantage une cible d'acquisition pour un joueur plus établi? C'est à ce moment que commence une des négociations des ventes d'entreprises les plus intenses de l'histoire où les gouvernements locaux auront beaucoup de poids dans la décision finale. Mais avant de s'attarder à la négociation qu'on pourra analyser en détail par la suite, il est intéressant de faire un petit retour en arrière. En 2005, un entrepreneur américain qui deviendra assez célèbre à travers le temps fonde une entreprise se nommant Quitsy qui possédera plusieurs sites de vente en ligne. Le plus populaire d'entre eux deviendra Diapers.com qui en 2010 arrivait à vendre pour plus de 300 millions de dollars de ventes par année d'accessoires divers pour les mamans. Amazon, toujours à l'affût des joueurs prenant de la place dans le commerce en ligne, a vu une opportunité de compétitionner dans ce même segment de marché. Et quelques mois après avoir fait la découverte de Diapers.com, Amazon décide donc de lancer sa propre catégorie pour les mères se nommant Amazon Mom. De manière automatique, grâce à leur algorithme, ils ont mis les prix de couches et accessoires pour enfants plus de 30% moins chers que Diapers.com avec une seule idée en tête, leur prendre toute leur part de marché. Et plus le temps avançait, plus Mark Lore, chef de l'entreprise, voyait sa profitabilité disparaître et se devait de penser à l'avenir de l'entreprise. Quelques mois plus tard, obligé de céder face à la pression, il accepte l'offre de Amazon et vend ainsi son entreprise pour 545 millions de dollars. Des chiffres sortiront plus tard montrant que Amazon pouvait perdre des centaines de millions de dollars par trimestre seulement pour compétitionner Diapers.com. Maintenant, pourquoi cette histoire nous intéresse quand on parlait plus tôt de l'expansion de Amazon en Inde? Eh bien, il est important de comprendre que l'histoire entre Mark Lore et Jeff Bezos ne s'arrêtera pas là. Après avoir complété ses 2 années chez Amazon comme il était indiqué dans son contrat de vente d'entreprise, Mark Lore, furieux de sa dernière expérience contre Amazon, décide de lancer un nouveau projet entrepreneurial se nommant Jet.com, une place de marché offrant quasiment tous les produits possibles. De quoi nous rappeler Amazon? Avec aucune gêne, il dira dans plusieurs entrevues, notre entreprise a l'ambition de compétitionner contre Amazon le plus rapidement possible. Ambitieux, il décide de lever des centaines de millions de dollars en financement et arrive à faire croître l'entreprise suffisamment pour être finalement acheté en 2016 3,3 milliards de dollars par nul autre que Walmart. Et c'est ainsi que l'histoire devient intéressante. Car autre que Amazon, qui croyez-vous a intégré les négociations en 2018 avec Flipkart pour l'acquisition du géant du commerce en ligne en Inde? Vous l'aurez deviné, le plus grand détaillant mondial et surtout son nouveau directeur général pour la section vente en ligne, Mark Lohr. Et cette fois-ci, c'est lui qui aura le dernier mot car officiellement vers la fin du mois d'août 2018, Walmart annoncera l'acquisition à 77% du géant Flipkart pour une somme astronomique de 16 milliards de dollars. Peu de gens ont réussi à prendre le dessus sur Jeff Bezos et on peut dire que Mark Lohr a dignement pu prendre sa revanche. La dernière partie de ma chronique d'affaires d'aujourd'hui est reliée à quelques autres chapitres à l'intérieur du livre qui ont grandement capté mon attention. Pour encore une fois bien vous situer, en plus de Amazon, Jeff Bezos, fondateur de l'entreprise de Seattle, a fait l'acquisition en 2013 du Washington Post, célèbre journal américain qui couvre davantage les nouvelles politiques. L'acquisition, qui a été d'une valeur de 250 millions de dollars à l'époque, va en quelque sorte devenir beaucoup plus dispendieuse que prévu, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Pendant la course à la présidence américaine de 2016 et également pendant la présidence même du 45e président des États-Unis, Donald Trump, le Washington Post, comme beaucoup de journaux d'ailleurs, a écrit des articles démontrant de manière très pointilleuse comment la gestion s'opérait à la Maison-Blanche. Entre les accusations de collusion avec la Russie, les scandales du président avec ses anciens collaborateurs et également ses déclarations qui pouvaient parfois paraître choquantes pour la population, vous aurez compris que le journal avait assez d'arguments pour bâtir des articles de presse qui allait déplaire au président. Et c'est à partir de ce moment qu'un certain conflit s'est installé entre deux des hommes les plus puissants de la planète, Donald Trump et Jeff Bezos. Pendant plusieurs années, les deux se sont très souvent envoyé des flèches sur Twitter dans lesquelles le président américain était l'agresseur et Jeff Bezos la personne qui se défend. Donald Trump parlait souvent du journal comme d'un outil de lobbying pour Jeff Bezos, tandis que ce dernier disait à la blague qu'il pouvait envoyer le président dans l'espace, loin de tous, avec ses installations de son entreprise Blue Origin. Pendant ce temps, la vache à lait numéro 1 de Amazon, AWS, continue à prendre de l'expansion au détriment des autres compétiteurs comme Google et Microsoft, qui ont tardé pendant trop longtemps à intégrer le marché du cloud computing. Sa dominance dans cette catégorie, qui se chiffre à plus de 30% des parts de marché mondialement, est tellement reconnue que des instances gouvernementales bâtissent même des propositions où seul Amazon est assez outillé pour répondre à la demande. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au cours des années 2018-2019, où le Pentagone américain a mis de l'avant un nouveau projet de sécurité numérique qui allait représenter 10 milliards de dollars sur 10 ans. Le projet, de la manière dont il était exposé, pouvait seulement être fait par Amazon au vu de la complexité des demandes liées. Tous les acteurs du cloud computing s'entendaient pour dire que Amazon allait gagner le projet haut la main jusqu'à ce que Donald Trump, en entretien télévisé à quelques mois de l'octroiement officiel du contrat, dise qu'il allait reviser personnellement le projet afin qu'il soit équitable pour tous, stipulant lui-même avoir reçu beaucoup de plaintes de Microsoft, Oracle et IBM, mentionnant que la demande faite par le gouvernement était 100% créée que pour Amazon. Et ce qui devait arriver arriva le 26 octobre 2019. Le Pentagone annonce que Microsoft remporte finalement le faramineux contrat de 10 milliards de dollars, chose que personne dans l'industrie n'aurait cru possible il y a de ça quelques mois. Certains diront même à la blague que l'acquisition du Washington Post de Jeff Bezos aura finalement coûté plus de 10 milliards de dollars tellement les gens étaient persuadés que Amazon avait perdu ce contrat dû à la mauvaise relation entre Jeff Bezos et Donald Trump. Finalement, après plusieurs joutes légales, le contrat Jedi sera annulé le 6 juillet 2021 et sera maintenant redistribué en plusieurs petits contrats pour les entreprises retenues par le gouvernement américain. Je terminerai cette chronique d'affaires en vous recommandant chaudement le dernier livre de Brad Stone. De tous les livres d'affaires que j'ai lus dans la dernière année, c'est de loin le livre qui m'a le plus captivé. Les anecdotes du bouquin et la plume de Brad Stone donnent une saveur à l'ouvrage très remarquable. J'espère également que vous avez aimé ces courts épisodes qu'on sort de temps en temps. Je vous invite d'ailleurs à nous donner vos commentaires. Mon email est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.